Vlanès regardait les hommes avec ses beaux yeux moussus comme des pierres de forêt. De temps en temps elle criait parce que l'annon tétait trop vite. C'était des bêtes de bonne santé et de bons sentiments, ça marchait encore s'emboîter. La grosse tête épaisse, aux yeux morts, était pleine encore des images et des odeurs de la montagne. Il y avait, par là-bas devant, l'odeur du bélier maître, elle odeur d'amour et de brebis folles, et les images de la montagne. Les têtes aux yeux morts dansaient de haut en bas, elles flottaient dans les images de la montagne et mâchaient doucement le goût des herbes anciennes, le vent de la nuit qui vient faire son nid dans la laine des oreilles, et les agneaux couchés comme du lait dans l'herbe fraîche, et les pluies. Le troupeau coule avec son bruit d'eau, il coule à route pleine, de chaque côté il frotte contre les maisons et les murs des jardins. L'annon s'arrête de téter, il est ivre, il tremble sur ses pattes, un fil de lait coule de son museau. L'ânesse lèche les yeux du petit âne, puis elle se tourne, elle s'en va, et l'annon marche derrière elle. Vint un autre bélier, et on le chercha d'abord sans le voir, on entendait sa campagne, mais rien ne dépassait les doses des moutons, et on cherchait le long de la troupe. Et puis on le vit, c'était un mâle à pompons noirs, ses deux larges cornes en tourbillon s'élargissaient comme des branches de chêne. Il avait posé ses cornes sur les doses des moutons, de chaque côté de lui, et il faisait porter sa lourde tête. Sa tête branchue flottait sur le flot des bêtes comme une souche de chêne sur la durance d'orage. Il avait du sang caillé sur ses dents et dans ses babines. Le détour de la route le poussa au bord. Il essaya de porter sa tête tout seul, mais elle le tira vers la terre, il lutta des genoux de devant, puis s'agenouilla. Sa tête était là, posée sur le sol comme une chose morte. Il lutta des jambes de derrière, enfin il tomba dans la poussière comme un tas de laine coupée. Il écarta ses cuisses à petits coups douloureux, il avait tout l'entrecuisse comme une boue de sang avec, là-dedans, des mouches et des abeilles qui bougeaient et deux œufs rouges qui ne tenaient plus au ventre que par un nerf gros comme une ficelle. Burl était revenu à sa fenêtre, derrière ses vitres, on lui voyait bouger les lèvres, gâcher la vie, gâcher la vie. Et Cléristin se parlait à voix haute. Il ne disait rien à personne, il parlait comme ça devant lui pour rien, pour vomir ce grand mal qui était en lui maintenant du départ de ses fils sur l'emplein des routes. Savoir ce qu'on va faire, il disait, on n'est pourtant pas de la race des batailleurs, et mon jeune, tout blanc malade, et mon aîné et ses pieds tendres. Et tout ça avec ses infirmités du dedans, des choses qu'on ne sait pas. C'est pas de juste. Il avait gardé son chapeau à la main et on voyait bien ses yeux mouillés, verts et moussus, comme les yeux de l'ânesse partie dans le troupeau. De temps en temps une grosse cloche sonnait ou bien une grappe de clochette claire, et c'était une mule, ou un âne, ou un mulet, ou même un vieux cheval. Ça n'avait plus le marché dansant des hautes bêtes, mais ça allait, pas trompu, avec de l'herbe et de la terre dans le poil et des plaques de boue sur les cuisses. Parfois ça devait s'arrêter là-bas, au fond des terres où s'était perdu le berger, l'arrêt remontait le long du troupeau, puis ça repartait avec un premier pas où toutes les bêtes bêlaient de douleur ensemble. Le bruit de cloche des mulets et des ânes diminua au fond de la route, il ne resta plus que le roulement monotone du flot, et le bruit de la douleur. Alors quelqu'un dit, écoutez, on écouta. C'était là-haut au fond du ciel le clocher étouffé de poussière qui essayait de sonner midi. La bouchère met le couvert, elle lance les assiettes au hasard sur la table, elle a aux lèvres sa moue de petite fille et de temps en temps elle renifle. Le petit garçon monte sur sa chaise, « Tire-toi par ici » dit la bouchère. Elle avait déjà essayé de cacher la place vide avec le pot à eau et la bouteille. « Tire-toi et puis non, laisse la place, puis non va, tire-toi, fais comme tu veux. » Elle s'en va à l'évier prendre des verres et elle y reste, le visage tourné vers le mur un bon moment immobile. « Mangez mère » dit Rose. Mais la mère fait non avec la tête et elle dit, « Qui sait où ils sont maintenant ?» Dehors, le grand troupeau coule. « Ils ne doivent pas être bien loin » dit Rose. « Il faut qu'on les habille, qu'on leur donne toutes leurs affaires et le fusil et les cartouches. Et puis, il faut qu'on les habitue encore à tirer du fusil. » On n'est pas obligé de savoir qu'il sait, il n'a qu'à dire qu'il ne sait pas. Oh mais oui, dit Rose, c'est pas facile, c'est tout écrit ici à la mairie, et qu'il prend son permis de chasse et tout le reste. Il vaut mieux qu'ils disent rien, qu'ils disent comme les autres. Et puis des pères de famille, on ne peut pas les jeter tout d'un seul coup. On y mettra ceux qui sont pas mariés d'abord, puis ceux qui n'ont pas d'enfants, puis ceux qui n'ont pas de commerce. Nous, il est marié, il a un enfant, on a un commerce alors, et puis d'ici là. Le pharmacien dit que pour la Toussaint, au plus tard. À mon idée, avant, ça aura tourné d'une façon ou de l'autre, manger mère.